Campagne, bonjour. Les carnets poursuivent leur route dans le département de la Manche. Un arrêt tout d'abord à Ambi, H-A-M-B-Y, 1200 habitants dans l'ancien canton de Coutances. Du nom de la commune, une déclinaison directe s'est faite pour désigner un projet solidaire porté par des jeunes de la commune sous le nom de Ambition Solidaire. De quoi s'agit-il ? D'une cabane solidaire, première du genre à être présentée dans les carnets. Elle est inspirée d'un équivalent déjà en fonction dans l'Orne. Cette cabane a pour but de recevoir les objets dont on souhaite se débarrasser, vêtements, vaisselle, livres, et etc. Du geste solidaire à l'animation sociale, il n'y a qu'un pas allègrement franchi grâce aux événements qui se trame dans et autour de cette cabane, des repas partagés entre autres. Et en plus, la fameuse cabane est sur le terrain de la MARPA, la maison d'accueil rural pour personnes âgées, de façon à impliquer également les personnes âgées dans le projet. Si cela peut inspirer d'autres collectifs et d'autres communes, ce sera tant mieux. Vous allez trouver un lien, comme toujours, avec cette association Ambition Solidaire. Le film Jeanne Bergère de Delphine Détry aura une sortie nationale en salle le 27 février. C'est l'histoire vraie de Stéphanie Maubet, première invitée. Et puis une expérience est en route dans 11 juridictions françaises afin de mesurer les bénéfices de la future médiation familiale obligatoire. Dans la Manche, cette expérience est largement soutenue par l'Union départementale des associations familiales dirigée par Hugo Paris, second invité de ces carnets.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Stéphanie Maubet, bonjour.
Bonjour.
Chère Stéphanie, vous n'avez pas peur de devenir un peu un cliché, un stéréotype, la belle parisienne qui s'est engagée seule dans une folle aventure, devenir bergère dans la Manche, et puis de présenter le renouveau de la vie auprès des valeurs authentiques, de la ruralité, d'une agriculture respectueuse de l'environnement?
Alors, au contraire, je fais tout pour les démonter les clichés et y apporter de la nuance. Oui. Parce que ce que je découvre dans la ruralité, c'est que de la nuance. Et rien ne rentre dans les clichés qu'on peut avoir depuis la ville.
Bien sûr. Et vous savez, on le répète régulièrement, on dit dans les sondages qui sont faits assez fréquemment sur la projection des habitants des grandes agglomérations sur la campagne, il y a 10 millions de personnes dans les sondages qui se disent totalement en adéquation avec cet idéal de vie que représente la campagne. Après, il faut passer à l'acte, c'est pas toujours évident, parce que ça implique des concessions, ça implique même parfois de renforcer un peu ses défenses, parce que vous ne vous êtes pas installé dans la grande convivialité.
Non, alors peut-être que j'ai été un petit peu kamikaze ou masochiste, c'est que j'ai eu un coup de foudre pour un mode d'élevage qui est vraiment super réglementé, puisque j'élève des agneaux dans les prés salés qui sont du domaine public maritime, oui. Et c'est un espace qui est soumis à beaucoup de convoitises, qui est à cheval entre des traditions orales et puis une manière de les interpréter un peu à la tête du client. Enfin, c'est vrai que j'ai pas choisi la voie la plus simple et la plus discrète. Je suis allée directement au cœur des complications de la vie agricole.
Oui. On va en parler plus précisément la semaine prochaine partout en France avec la sortie du film de Delphine Détry, Jeanne Bergère, qui est sur votre parcours et votre histoire. Et dans le film, on voit que les jalousies, c'est parfois de casser des clôtures, c'est de casser du matériel. Et vous avez connu ce genre de mésaventure.
Ah oui, alors là, les malveillances, je pourrais écrire un livre sur les malveillances. Mais il y en a des très drôles et des très pittoresques. Il y en a aussi plein qui sont coûteuses, qui sont conflictuelles et puis brutales. Mais il y a aussi des malveillances presque poétiques dans dans l'inventivité pour nuire à quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc il vaut mieux en rire et prendre de la distance. Ce que je découvre, c'est que la vie rurale et la vie agricole, elle est tellement dure qu'il faut que je fasse attention à moi-même, ne pas devenir plus tard aigrie ou rancunière ou contre le système ou contre mes voisins. Donc ça me sert aussi un peu de miroir.
Ouais. Mais Stéphanie, je parlais des clichés, il y en a un là. J'imagine en tout cas que ces jalousies, ces convoitises, il n'y a pas uniquement le fait que vous veniez empiéter sur un terrain qui provoque beaucoup de jalousie, c'est que vous êtes quand même le cliché de la Parisienne qui vient donner une leçon aux ruraux.
Alors, assez vite, j'ai compris que pour pas rentrer dans ce cliché, fallait surtout que je la ferme et que je la joue discrète et surtout pas parler de permaculture ou de trucs que j'aurais lu dans des livres. Comme j'avais déjà pas mal de casseroles à traîner, le fait que je sois une femme, jeune, que je vienne d'un milieu un petit peu, qui pourrait être perçu comme superficiel, parce que je venais du milieu de l'audiovisuel et du graphisme. Ouais. Donc c'est vrai que c'est à moi d'arriver à petits pas et puis d'observer d'abord avant de me dire bon, eh bien maintenant je pense que j'ai la légitimité pour être agricultrice, donc je vais un peu relever la tête et puis dire comment je vois l'avenir de mon métier. Mais les premières années, il fallait pas que je le fasse. Ça aurait été très maladroit, peu stratégique.
Alors, vous avez 120 brebis sur deux sites naturels, dont le Havre de Saint-Germain-sur-Aï, 600 habitants. Et vous avez aussi 6 hectares de prairies que vous possédez ou vous louez. Mais est-ce que vous n'avez pas peur, c'est la dernière chose, Stéphanie, en acceptant de paraître à l'écran, de relancer à nouveau ce système de jalousie et de convoitise?
Non, alors déjà les gens qui m'aiment pas, ils m'aimeront toujours pas, mais c'est pas très grave. Ce que je trouve intéressant dans la chance que j'ai de pouvoir communiquer sur ce parcours, c'est que si ça pouvait donner le courage à d'autres jeunes néo-ruraux, soit de passer à l'acte et de se dire qu'eux aussi ils peuvent vivre d'un métier agricole, soit éventuellement pour ceux qui seraient déjà dans cette démarche et qui souffriraient de malveillance ou d'intimidation, de les renforcer et de leur donner du courage pour que ce film leur dise « t'as raison, ta cause est noble, vas-y ». La ruralité, elle a besoin de renouvellement générationnel, de gens qui arrivent avec une nouvelle vision de l'agriculture. Le constat que je fais sur le terrain, c'est que les gens de mon âge qui sont nés ici sont partis en ville. Ils n'ont surtout pas voulu reprendre la ferme de leurs parents. Donc la génération au-dessus de la mienne, elle n'a pas de repreneur. Et quand ils arrivent à l'âge de la retraite, ce sont des fermes qui arrêtent leur activité et qui partent à l'agrandissement des fermes voisines. Donc on est beaucoup, beaucoup plus acceptés maintenant qu'il y a 10 ans ou 20 ans parce qu'on vient combler une place. Donc passé la surprise du début de notre arrivée, on se rend compte qu'on est bien accueillis et qu'on trouve notre place.
Tant mieux. Vous êtes convaincante parce que vous êtes convaincue de la justesse de ce choix professionnel, comme vous l'avez expliqué, par rapport au maintien d'activités d'élevage et d'agriculture paysanne du côté de chez nous. Jeune bergère, le documentaire de Delphine Détry, sort en salle le 27 février dans quelques jours. Merci Stéphanie.
Merci à vous, bonne journée.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Du théâtre à la campagne, la chose n'est pas nouvelle. Mais avec Vincent Posé, elle prend une autre tournure. D'abord, Vincent fut journaliste avant de devenir comédien et coach de théâtre improvisé. Entre les deux, il y avait néanmoins un pont qui tient à la lecture de la société. Théâtre, improvisation et fête société ont fait germer l'idée d'un travail de théâtre forum qui pousse la compagnie comme une impro, c'est son nom, à travailler sur des thématiques telles que le harcèlement scolaire, la pratique des écrans et l'addiction qui s'ensuit, la communication agricole, mais aussi le handicap et la question de l'inclusion des personnes dites différentes. Partie seule à la conquête d'un théâtre participatif à Saint-Lô avec de jeunes publics, mais aussi avec des amateurs qui apprennent autant l'écriture que le jeu théâtral, Vincent s'entoure régulièrement d'une dizaine de professionnels recrutés, cette fois pour le bien de ses créations. Dans cet éventail d'activités, notre correspondant donne aussi des représentations théâtrales en entreprise qui interrogent à chaque fois la vie en collectivité et la place de l'humain dans le travail. Bref, comme une impro se présente comme une entreprise, pas tout à fait comme les autres, comme une impro.fr pour l'adresse. Hugo Paris, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Hugo, vous dirigez l'Union départementale des associations familiales LUDAF de la Manche et vous nous faites part d'une expérimentation en ce moment que vous pratiquez, que vous réalisez en partenariat avec le tribunal, le parquet, le barreau à Cherbourg. Il s'agit d'une médiation familiale version obligatoire. Va-t-elle devenir obligatoire cette médiation familiale en France lorsqu'il y a conflit et séparation?
Alors, pour le moment, le Parlement a voulu expérimenter quelque chose. Effectivement, jusqu'alors, il y a des services de médiation familiale. Il y en a un, l'UDAF de la Manche. Dans la Manche, il y a aussi l'association ATSEAM qui le fait. Et donc, les juges peuvent enjoindre les couples qui se séparent de venir en médiation. Ou alors, les personnes d'elles-mêmes, pressentant le conflit, peuvent dire ben, on va bénéficier d'un tiers qui va nous aider à se séparer sans trop de conflits. L'expérimentation, elle a commencé en septembre novembre 2017. Et l'objectif, c'est que quand un couple veut se séparer, il va avoir un juge. Mmh. Mais après, il peut y avoir d'autres décisions à prendre une fois que la séparation est actée. Quand les enfants grandissent, lorsque les couples refont leur vie, lorsqu'ils déménagent. Et donc, il y a peut-être des décisions nouvelles à prendre, d'autres organisations, l'autorité parentale, le lieu de résidence de l'enfant, la pension alimentaire. Et lorsqu'il faut revenir sur des décisions initiales, eh bien là, on expérimente le fait qu'on oblige les personnes à tenter la médiation familiale et à trouver en elles-mêmes les solutions plutôt que de demander à un magistrat de trancher.
Ouais, et la médiation familiale s'impose là à partir du moment où il y a un apaisement entre les deux membres du couple.
Eh bien, effectivement, le médiateur, il est là pour essayer que chacun mette de côté l'agressivité éventuelle ou le ressentiment, et essayer de trouver des solutions dans l'intérêt de l'enfant et dans l'intérêt d'une vie de famille qui soit équilibrée. Parce que le couple amoureux, c'est des faits, ça c'est un fait, mais le couple parental continue d'exister.
Et Cherbourg est le seul tribunal normand à faire cette expérimentation.
Eh bien non, il y a 10 tribunaux de grande instance qui l'expérimentent. Il y a Rennes, il y a Nantes, il y a Montpellier, il y a Versailles, donc des territoires avec des gros tribunaux. Donc à Cherbourg, les magistrats ont vraiment voulu que cette expérimentation se joue sur un territoire, alors c'est une grande ville Cherbourg, mais qui reste dans une presqu'île du Cotentin plutôt rurale. Et le président Nicolas Houx de l'époque, ou la nouvelle présidente du tribunal de grande instance, Madame Kloss, avec la magistrate Agnès Garcia, ont voulu absolument que l'expérimentation se joue aussi sur des territoires comme cela pour voir quelles étaient les particularités et comment on pouvait nourrir une future ou une éventuelle réforme de la médiation familiale en la rendant peut-être obligatoire et généralisée au 1er janvier 2020, même si on est en cours d'expérimentation et on évaluera dans quelques mois.
Oui, alors j'anticipe, je vois poindre déjà des critiques, Hugo, on va vous dire, oui mais là vous rendez le principe du divorce et de la séparation tellement simple et facile. Ça en devient presque un produit consommable.
Je pense qu'une politique publique, elle doit accompagner la vie des familles. Alors après, est-ce qu'on fait le pari de la responsabilisation des citoyens ou est-ce qu'on demande aux magistrats finalement de tout trancher ? Cette réforme, même si on peut voir la volonté de l'État de rendre l'accès au juge plus difficile par ses moyens de médiation familiale, et donc peut-être de mettre moins d'argent sur la justice, c'est aussi un moyen de rendre responsables les citoyens de leur propre avenir. Après, de toute façon, si ça ne marche pas, ils peuvent tout à fait revenir devant le juge et continuer avec le magistrat. Donc il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là.
Bien sûr. Puis il y a deux avantages. On libère les couloirs des tribunaux et puis on amoindrit le coût de la séparation parce qu'il y a des frais qui sont très souvent importants.
Et oui, exactement. Et en plus, en cas de violence, par exemple, en cas de violence conjugale, il n'y a pas de médiation familiale. Enfin, il exclut un certain nombre de choses. Et en plus, le projet de loi prévoit la présence des avocats. Par exemple, au début de la séance de médiation familiale, ou peut-être à la fin, une fois qu'on a rédigé un accord, et qu'il faut traduire cet accord en mots juridiques, pour qu'il soit conforme au droit, eh bien, les avocats peuvent venir. Et donc, ça se passe en toute transparence avec les magistrats et avec les avocats.
Il y a des avocats qui font des effets de manche, mais dans la manche, on fait bien les choses. Ça, c'est un petit peu facile, mais bon.
Oui, mais je vous reconnais bien.
Merci. Le site, c'est udaf50.fr pour l'adresse à suivre. Cette expérimentation de la médiation familiale obligatoire au tribunal de Cherbourg. Merci, Hugo Paris.
Merci, Philippe Bertrand. À bientôt.
Nous serons encore dans la Manche demain avant d'aborder l'Orne la semaine prochaine. Et puis au mois de mars, je le rappelle, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le département de Charente-Maritime, celui de Gironde. Et puis début avril, déjà le Lot-et-Garonne.